Éducation. Ils se procurèrent plusieurs ouvrages touchant l'éducation, et leur système fut résolu. Il fallait bannir toute idée métaphysique, et d'après la méthode expérimentale, suivre le développement de la nature. Rien ne pressait, les deux élèves devant oublier ce qu'ils avaient appris. Bien qu'ils eussent un tempérament solide, Pécuchet voulait comme un spartiate les endurcir encore, les accoutumer à la faim, à la soif, aux intempéries, et même qu'ils portassent des chaussures trouées afin de prévenir les rhumes. Bouvard s'y opposa. Le cabinet noir au fond du corridor devint leur chambre à coucher. Elle avait pour meubles deux lits de sangle, deux cuvettes et un broc. L'œil de bœuf s'ouvrait au-dessus de leur tête et des araignées couraient le long du plâtre. Souvent, ils se rappelaient l'intérieur d'une cabane où l'on se disputait. Une nuit, leur père était rentré avec du sang aux mains. Quelque temps après, les gendarmes étaient venus. Ensuite, ils avaient logé dans un bois. Des hommes qui faisaient des sabots embrassaient leur mère. Elle était morte. Une charrette les avait emmenés. On les battait beaucoup. Ils s'étaient perdus. Puis ils revoyaient le garde champêtre, Madame de Noard, Sorel. Et, sans se demander pourquoi cette autre maison, ils s'y trouvaient heureux. Aussi leur étonnement fut pénible quand, au bout de 8 mois, les leçons recommencèrent. Bouvard se chargea de la petite, Pécuchet du gamin. Victor distinguait ses lettres, mais n'arrivait pas à former les syllabes. Il en bredouillait, s'arrêtait tout à coup, il avait l'air idiot. Victorine posait des questions. D'où vient que CH dans orchestre a le son d'un Q et celui d'un K dans archéologique? On doit par moments joindre deux voyelles, d'autres fois les détacher. Tout cela n'est pas juste, il s'indignait. Les maîtres professaient à la même heure, dans leurs chambres respectives, et la cloison étant mince, ces 4 voix, une flûtée, une profonde et 2 aiguës, composaient un charivari abominable. Pour en finir et stimuler les mioches par l'émulation, ils eurent l'idée de les faire travailler ensemble dans le muséum, et on aborda l'écriture. Les deux élèves, à chaque bout de la table, copiaient un exemple. Mais la position du corps était mauvaise, il les fallait redresser. Leurs pages tombaient, les plumes se fendaient, l'encre se renversait. Victorine, en de certains jours, allait bien pendant 5 minutes, puis traçait des griffonnages. Et prise de découragement, restait les yeux au plafond. Victor ne tardait pas à s'endormir, vautré au milieu du bureau. Peut-être souffrait-il. Une tension trop forte nuit aux jeunes cervelles. Arrêtons-nous, dit Bouvard. Rien n'est stupide comme de faire apprendre par cœur. Mais si on n'exerce pas la mémoire, elle s'atrophiera. Et ils leur serinèrent les premières flammes de la fontaine. Les enfants approuvaient la fourmi qui thésaurise, le loup qui mange l'agneau, le lion qui prend toutes les parts. Devenus plus hardis, ils dévastaient le jardin. Mais quel amusement leur donner! Jean-Jacques, dans Émile, conseille au gouverneur de faire faire à l'élève ses jouets lui-même, en l'aidant un peu, sans qu'il s'en doute. Bouvard ne put réussir à fabriquer un cerceau, Pécuchet à coudre une balle. Ils passèrent aux jeux instructifs, tels que des découpures, un verre ardent. Pécuchet leur montra son microscope, et la chandelle étant allumée, Bouvard dessinait avec l'ombre de ses doigts un lièvre ou un cochon sur la muraille. Le public s'en fatigua. Des auteurs exaltent comme plaisir un déjeuner champêtre, une partie de bateau. Est-ce praticable, franchement? Fénelon recommande de temps à autre une conversation innocente. Impossible d'en imaginer une seule. Ils revinrent aux leçons, et les boules à facettes, les rayures, le bureau typographique, tout avait échoué quand ils avisèrent un stratagème. Comme Victor était enclin à la gourmandise, on lui présentait le nom d'un plat. Bientôt, il lut couramment dans le cuisinier français. Victorine étant coquette, une robe lui serait donnée si, pour la voir, elle écrivait à la couturière. En moins de 3 semaines, elle accomplit ce prodige. C'était courtiser leurs défauts, moyen pernicieux, mais qui avait réussi. Maintenant qu'ils savaient écrire et lire, que leur apprendre autre embarras? Les filles n'ont pas besoin d'être savantes comme les garçons, n'importe. On les élève ordinairement en véritables brutes, tout leur bagage se bornant à des sottises mystiques. Bon, vient-il de leur enseigner les langues? L'espagnol et l'italien, prétend le signe de Cambrai, ne servent qu'à lire des ouvrages dangereux. Un tel motif leur parut bête. Cependant, Victorine n'aurait que faire de ces idiomes, tandis que l'anglais est d'un usage plus commun. Pécuchat en étudia les règles, et il démontrait avec sérieux la leçon d'émettre le TH, comme cela tient « th ». Mais avant d'instruire un enfant, il faudrait connaître ses aptitudes. On les devine par la phrénologie. Ils s'y plongèrent, puis voulurent en vérifier les assertions sur leur personne. Bouvard présentait la bosse de la bienveillance, de l'imagination, de la vénération et celle de l'énergie amoureuse, vulgo, érotisme. On sentait sur les temporaux de Pécuchet la philosophie et l'enthousiasme joints à l'esprit de ruse. Tels étaient leurs caractères. Ce qui les surprit davantage, ce fut de reconnaître chez l'un comme l'autre le penchant à l'amitié. Et, charmés de la découverte, ils s'embrassèrent avec attendrissement. Leur examen ensuite porta sur Marcel. Son plus grand défaut, et qu'il n'ignorait pas, était un extrême appétit. Néanmoins, Bouvard et Pécuchet furent effrayés en constatant au-dessus du pavillon de l'oreille, à la hauteur de l'œil, l'organe de l'alimentivité. Avec l'âge, leur domestique deviendrait peut-être comme cette femme de la salpêtrière qui mangeait quotidiennement 8 livres de pain, engloutit une fois 12 potages et une autre 60 bols de café. Il ne pourrait y suffire. Les têtes de leurs élèves n'avaient rien de curieux. Ils s'y prenaient mal, sans doute. Un moyen très simple développa leur expérience. Les jours de marché, ils se faufilaient au milieu des paysans sur la place, entre les sacs d'avoine, les paniers de fromage, les veaux, les chevaux, insensibles aux bousculades, et quand ils trouvaient un jeune garçon avec son père, ils demandaient à lui palper le crâne dans un but scientifique. Le plus grand nombre ne répondait même pas. D'autres, croyant qu'il s'agissait d'une pommade pour la teigne, refusaient vexés. Quelques-uns, par indifférence, se laissaient emmener sous le porche de l'église, où l'on serait tranquille. Un matin que Bouvard et Pécuchet commençaient leur manœuvre, le curé tout à coup parut. Et, voyant ce qu'il faisait, accusa la phrénologie de pousser au matérialisme, au fatalisme. Le voleur, l'assassin, l'adultère n'ont plus qu'à rejeter leur crime sur la faute de leur boss. Bouvard objecta que l'organe prédispose à l'action, sans pourtant vous y contraindre. De ce qu'un homme a le germe d'un vice, rien ne prouve qu'il sera vicieux. Du reste, j'admire les orthodoxes, ils soutiennent les idées innées et repoussent les penchants. Quelle contradiction! Mais la phrénologie, suivant M. Geoffroy, niait l'omnipotence divine. Et il était malséant de la pratiquer à l'ombre du Saint-Lieu, en face même de l'autel. Retirez-vous, non, retirez-vous! Ils s'établirent chez Ganot, le coiffeur. Pour vaincre toute hésitation, Bouvard et Pécuchet allaient jusqu'à régaler les parents d'une barbe ou d'une frisure. Le docteur, un après-midi, vint s'y faire couper les cheveux. En s'asseyant dans le fauteuil, il aperçut, reflété par la glace, les deux phrénologues qui promenaient leurs doigts sur des caboches d'enfants. « Vous en êtes à ces bêtises-là » dit-il. « Pourquoi bêtise ?» Fourcorbeil eut un sourire méprisant, puis affirma qu'il n'y avait point dans le cerveau plusieurs organes. Ainsi, tel homme digère un aliment que ne digère pas tel autre. Faut-il supposer dans l'estomac autant d'estomac qu'il s'y trouve de goût? Cependant, un travail délasse d'un autre, un effort intellectuel ne tend pas à la fois toutes les facultés. Chacune a donc un siège distinct. Les anatomistes ne l'ont pas rencontré, dit Vaucorbeil. C'est qu'ils ont mal disséqué, reprit Pécuchet. Comment ? Eh oui, ils coupent des tranches, sans égard à la connexion des parties, phrase d'un livre qu'ils se rappelaient. Ah, voilà une balourdise, s'écria le médecin. Le crâne ne se moule pas sur le cerveau, l'extérieur sur l'intérieur. Gall se trompe, et je vous défie de légitimer sa doctrine en prenant au hasard trois personnes dans la boutique. La première était une paysanne, avec de gros yeux bleus. Pécuchet dit en l'observant, elle a beaucoup de mémoire. Son mari attesta le fait et s'offrit lui-même à l'exploration. Oh, oh, vous, mon brave, on vous conduit difficilement. D'après les autres, il n'y avait point dans le monde un pareil têtu. La troisième épreuve se fit sur un gamin escorté de sa grand-mère. Pécuchet déclara qu'il devait chérir la musique. « Je crois bien, dit la bonne femme, montre à ces messieurs pour voir. » Il tira de sa blouse une guimbarde et se mit à souffler dedans. Un fracas s'éleva. C'était la porte claquée violemment par le docteur qui s'en allait. Ils ne doutèrent plus d'eux-mêmes et, appelant les deux élèves, recommencèrent l'analyse de leur boîte osseuse. Celle de Victorine était légèrement unie, marque de pondération, mais son frère avait un crâne déplorable, une éminence très forte dans l'angle mastoïdien des pariétaux, indiquait l'organe de la destruction, du meurtre, et plus bas, un renflement était le signe de la convoitise, du vol. Bouvard et Pécuchet en furent attristés pendant 8 jours. Il faudrait comprendre le sens des mots. Ce qu'on appelle la combativité implique le dédain de la mort. S'il fait des homicides, il peut de même produire des sauvetages. L'acquisivité englobe le tact des filous et l'ardeur des commerçants. L'irrévérence est parallèle à l'esprit de Rikitrique, la ruse à la circonspection. Toujours un instinct se dédouble en deux parties, une mauvaise et une bonne. On détruira la seconde en cultivant la première. Et par cette méthode, un enfant audacieux, loin d'être un bandit, deviendra un général. Le lâche n'aura seulement que de la prudence, l'avare de l'économie, le prodigue de la générosité. Un rêve magnifique les occupa. S'ils menaient à bien l'éducation de leurs élèves, ils fonderaient un établissement ayant pour but de redresser l'intelligence, dompter les caractères, ennoblir le cœur. Déjà, ils parlaient des souscriptions et de la bâtisse. Leur triomphe chez Gano les avait rendus célèbres, et des gens les venaient consulter afin qu'on leur dise leurs chances de fortune. Il en défila de toutes les espèces, crânes en boule, en poire, en pain de sucre, de carrés, d'élèves, de resserrés, d'aplatis, avec des mâchoires de bœuf, des figures d'oiseaux, des yeux de cochon. Tant de monde gênait le perruquier dans son travail. Les coudes frôlaient l'armoire à vitres contenant la parfumerie, on dérangeait les peignes, le lavabo fut brisé. Et il flanqua dehors, tous les amateurs en priant Bouvard et Pécuchet de les suivre, ultimatum qu'ils acceptèrent sans murmurer, étant un peu fatigués de la cranioscopie. Le lendemain, comme ils passaient devant le jardinet du capitaine, ils aperçurent, causant avec lui, Girbal, Coulon, le garde champêtre, et son fils cadet, Zéphirin, habillé en enfant de cœur. Sa robe était toute neuve, il se promenait dessous avant de la remettre dans la sacristie, et on le complimentait. Plaquevent pria ces messieurs de palper son jeune homme, curieux de savoir ce qu'il penserait. La peau du front avait l'air comme tendue, un nez mince, très cartilagineux. Du bout tombait obliquement sur des lèvres pincées. Le menton était pointu, le regard fuyant. L'épaule droite trop haute. « Retire ta calotte, » lui dit son père. Bouvard glissa les mains dans sa chevelure couleur de paille, puis ce fut le tour de Pécuchet, et il se communiqua à voix basse leurs impressions. « Biophilie manifeste. »« Ah, la probabilité, conscienciosité absente, amativité nulle. Eh bien, dit le garde champêtre, Pécuchet ouvrit sa tabatière et huma une prise. Rien de bon, hein ? Ma foi, répliqua Bouvard, ce n'est guère fameux. Plaquevent rougit d'humiliation. Il fera tout de même ma volonté. Ouhou. Mais je suis son père, nom de Dieu, et j'ai bien le droit. Dans une certaine mesure, reprit Pécuchet. Girbal s'en mêla. L'autorité paternelle est incontestable. Mais si le père est un idiot ? N'importe, dit le capitaine, son pouvoir n'en est pas moins absolu. Dans l'intérêt des enfants, ajouta Coulon. D'après Bouvard et Pécuchet, ils ne devaient rien aux auteurs de leur jour, et les parents, au contraire, leur doivent la nourriture, l'instruction, des prévenances, enfin tout. Les bourgeois se récrièrent devant cette opinion immorale. Plaquevent en était blessé comme d'une injure. « Avec cela, ils sont jolis, ceux que vous ramassez sur les grandes routes. Ils iront loin, prenez garde. »« Garde à quoi ?» dit aigrement Pécuchet. « Oh, j'ai pas peur de vous, ben, ni moi non plus !» Coulon intervint, modéra le garde champêtre et le fit s'éloigner. Pendant quelques minutes, on resta silencieux. Puis il fut question des dahlias du capitaine, qui ne lâcha point son monde sans les avoir exhibés l'un après l'autre. Bouvard et Pécuchet regagnaient leur domicile. Quant à 100 pas devant eux, ils distinguèrent Plaquevent et Zéphirin près de lui lever le coude en manière de bouclier pour se garantir des gifles. Ce qu'ils venaient d'entendre exprimait sous d'autres formes les idées de Monsieur le Comte. Mais l'exemple de leurs élèves témoignerait combien la liberté l'emporte sur la contrainte. Un peu de discipline était cependant nécessaire. Pécuchet cloua dans le muséum un tableau pour les démonstrations. On tiendrait un journal où les actions de l'enfant notées le soir seraient relues le lendemain. Tout s'accomplirait au son de la cloche. Comme Dupont de Nemours, ils useraient de l'injonction paternelle d'abord, puis de l'injonction militaire, et le tutoiement fut interdit. Bouvard tâcha d'apprendre le calcul à Victorine. Quelquefois, ils se trompaient, ils en riaient l'un et l'autre. Puis, le baisant sur le cou, à la place qui n'a pas de barbe, elle demandait à s'en aller, et il la laissait partir. Pécuchet, aux heures des leçons, avait beau tirer la cloche et crier par la fenêtre « l'injonction militaire », le gamin n'arrivait pas. Ses chaussettes lui pendaient toujours sur les chevilles. À table même, il se fourrait les doigts dans le nez et ne retenait point ses gaz. Broussel, là-dessus, défend les réprimandes, car il faut obéir aux sollicitations d'un instinct conservateur. Corinne et lui employaient un affreux langage, disant « Mei tout pour moi aussi, Bère pour boire, Hall pour elle ». Un devantio, deux lios. Mais comme la grammaire ne peut être comprise des enfants, et qu'ils la sauront s'ils entendent parler correctement, les deux bons hommes surveillaient leur discours jusqu'à en être accommodés. Ils différaient d'opinion quant à la géographie. Bouvard pensait qu'il est plus logique de débuter par la commune, Pécuchet par l'ensemble du monde. Avec un arrosoir et du sable, il voulut démontrer ce qu'était un fleuve, une île, un golfe, et même sacrifia trois plates-bandes pour les trois continents. Mais les points cardinaux n'entraient pas dans la tête de Victor. Par une nuit de janvier, Pécuchet l'emmena en rase campagne. Tout en marchant, il préconisait l'astronomie. Les navigateurs l'utilisent dans leurs voyages. Christophe Colomb, sans elle, n'eût pas fait sa découverte. Nous devons de la reconnaissance à Copernic, à Galilée, à Newton. Il gelait très fort et sur le bleu noir du ciel, une infinité de lumières scintillait. Pécuchet leva les yeux. Comment ? Pas de grand ours ? La dernière fois qu'il l'avait vue, elle était tournée d'un autre côté. Ah, enfin, il la reconnut. Puis montra l'étoile polaire, toujours au nord et sur laquelle on s'oriente. Le lendemain, il posa au milieu du salon un fauteuil et se mit à valser autour. Imagine que ce fauteuil est le soleil et que moi je suis la terre. Elle se meut ainsi. » Victor le considérait plein d'étonnement. Il prit ensuite une orange, y passa une baguette signifiant les pôles, puis l'encercla d'un trait au charbon pour marquer l'équateur. Après quoi, il promena l'orange alentour d'une bougie, en faisant observer que tous les points de la surface n'étaient pas éclairés simultanément, ce qui produit la différence des climats, et pour celle des saisons, il pencha l'orange, car la Terre ne se tient pas droite, ce qui amène les équinoxes et les solstices. Victor n'y avait rien compris. Il croyait que la Terre pivote sur une longue aiguille et que l'équateur est un anneau, étreignant sa circonférence. Au moyen d'un atlas, Pécuchet lui exposa l'Europe. Mais ébloui par tant de lits et de couleurs, il ne retrouvait plus les noms. Les bassins et les montagnes ne s'accordaient pas avec les royaumes. L'ordre politique embrouillait l'ordre physique. Tout cela peut-être s'éclaircirait en étudiant l'histoire.
Il eût été plus facile de commencer par le village, ensuite l'arrondissement, le département, la province, mais Chavignol n'ayant point d'annales, il fallait bien s'en tenir à l'histoire universelle. Tant de matières l'embarrassent qu'on doit seulement en prendre les beautés. Il y a, pour la grecque, nous combattrons à l'ombre l'envieux qui bannit Aristide et la confiance d'Alexandre en son médecin. Pour la romaine, les oies du Capitole, le trépied de Sévola, le tonneau de Régulus, le lit de rose de Guanmozin est considérable pour l'Amérique. Quant à la France, elle comporte le vase de Soissons, le chêne de Saint-Louis, la mort de Jeanne d'Arc, la poule au pot du Béarnais. On a l'embarras du choix, sans compter Amois d'Auvergne et le naufrage du Vengeur. Victor confondait les hommes, les siècles, les pays. Cependant, Pécuchet n'allait pas le jeter dans des considérations subtiles, et la masse des faits est un vrai labyrinthe. Il se rabattit sur la nomenclature des rois de France. Victor les oubliait, faute de connaître les dates. Mais si la mnémotechnie de Dumouchel avait été insuffisante pour eux, que serait-ce pour lui ? Conclusion ? L'histoire ne peut s'apprendre que par beaucoup de lectures. Il les ferait. Le dessin est utile dans une foule de circonstances. Or, Pécuchet eut l'audace de l'enseigner lui-même d'après nature, en abordant tout de suite le paysage. Un libraire de Bayeux lui envoya du papier, du caoutchouc, deux cartons, des crayons et du fixatif pour leurs œuvres, qui, sous verre et dans des cadres, orneraient le muséum. Levé dès l'aurore, il se mettait en route avec un morceau de pain dans la poche, et beaucoup de temps était perdu à chercher un site. Pécuchet voulait à la fois reproduire ce qui se trouvait sous ses pieds, l'extrême horizon et les nuages. Mais les lointains dominaient toujours les premiers plans. La rivière dégringolait du ciel, le berger marchait sur le troupeau, un chien endormi avait l'air de courir. Ah, pour sa part, il y renonça. Se rappelant avoir lu cette définition, le dessin se compose de trois choses, la ligne, le grain est fin, de plus le trait de force. Mais le trait de force, il n'y a que le maître seul qui le donne. Il rectifiait la ligne, collaborait au grain, surveillait le grain fainé, attendait l'occasion de donner le trait de force. Elle ne venait jamais. Tant le paysage de l'élève était incompréhensible. Sa sœur, paresseuse comme lui, bâillait devant la table de Pythagore. Mademoiselle Reine lui montrait à coudre, et quand elle marquait du linge, elle levait les doigts si gentiment que Bouvard ensuite n'avait pas le cœur de la tourmenter avec sa leçon de calcul. Un de ces jours, il s'y remettrait. Sans doute, l'arithmétique et la couture sont nécessaires dans un ménage. « Mais il est cruel, objecta Pécuchet, d'élever les filles en vue exclusivement du mari qu'elles auront. Toutes ne sont pas destinées à l'hymen, Et si on veut que plus tard elles se passent des hommes, il faut leur apprendre bien des choses. On peut inculquer les sciences à propos des objets les plus vulgaires, dire par exemple en quoi consiste le vin. Et l'explication fournie, Victor et Victorine devaient la répéter. Il en fut de même des épices, des meubles, de l'éclairage. Mais la lumière, c'était pour eux la lampe, elle n'avait rien de commun avec l'étincelle d'un caillou, la flamme d'une bougie, la clarté de la lune. Un jour, Victorine demanda « D'où vient que le bois brûle ?» Ses maîtres se regardèrent embarrassés, la théorie de la combustion les dépassant. Une autre fois, Bouvard, depuis le potage jusqu'au fromage, parla des éléments nourriciers et ahurit les deux petits sous la fibrine, la caséine, la graisse et le gluten. Ensuite, Pécuchet voulut leur expliquer comment le sang se renouvelle et il pataugea dans la circulation. Le dilemme n'est point commode. Si l'on part des faits, le plus simple exige des raisons trop compliquées. Et en posant d'abord les principes, on commence par l'absolu, la foi. Que résoudre ? Combiner les deux enseignements, le rationnel et l'empirique ? Mais un double moyen vers un seul but est l'inverse de la méthode. Oh, tant pis. Pour les initiés à l'histoire naturelle, ils tentèrent quelques promenades scientifiques. « Tu vois, disait-il en montrant un âne, un cheval, un bœuf, les bêtes à quatre pieds, ce sont des quadrupèdes. Les oiseaux présentent des plumes, les reptiles des écailles et les papillons appartiennent à la classe des insectes. » Ils avaient un filet pour les prendre et Pécuchet, tenant la bestiole avec délicatesse, leur faisait observer les quatre ailes, les six pattes, les deux antennes et la trompe osseuse qui aspire le nectar des fleurs. Ils cueillaient des simples au revers des fossés, disaient leur nom, ou en inventaient, afin de garder son prestige. D'ailleurs, la nomenclature est le moins important de la botanique. Il écrivit cet axiome sur le tableau. Toute plante a des feuilles, un calice et une corolle enfermant un ovaire ou péricarpe qui contient la graine. Puis il ordonna à ses élèves d'herboriser au hasard dans la campagne. Thor en rapporta des boutons d'or, sorte de renoncule dont la fleur est jaune. Victorine une touffe de graminées. Il y chercha vainement un péricarde. Bouvard, qui se méfiait de son savoir, fouilla toute la bibliothèque et découvrit dans « Le redouté des dames » le dessin d'une rose. L'ovaire n'était pas situé dans la corolle, mais au-dessous des pétales. « C'est une exception, » dit Pécuchet. Ils trouvèrent une rubiacée qui n'a pas de calice. Ainsi le principe posé par Pécuchet était faux. Il y avait dans leur jardin des tubéreuses, toutes sans calice. Une tourderie. La plupart des liliacées en manquent. Mais un hasard fit qu'ils virent une gérardie, description de la plante, et elle avait un calice. Allons bon, si les exceptions elles-mêmes ne sont pas vraies, à qui se fier ? Un jour, dans une de ces promenades, ils entendirent crier des paons, jetèrent les yeux par-dessus le mur, et au premier moment, ils ne reconnaissaient pas leur ferme. La grange avait un toit d'ardoise, les barrières étaient neuves, les chemins empierrés. Le père Gouy parut « Pas possible, est-ce vous ? Que d'histoire depuis 3 ans ! La mort de ma femme, entre autres. Quant à lui, il se portait toujours comme un chêne. Entrez donc une minute. On était au commencement d'avril et les pommiers en fleurs alignaient dans les trois masures leurs touffes blanches et roses. Le ciel, couleur de satin bleu, n'avait pas un nuage. Des nappes, des draps et des serviettes pendaient verticalement, attachées par des fiches de bois, des cordes tendues. Le père Gouy les soulevait pour passer, quand tout à coup, ils rencontrèrent Madame Bordin, nu-tête, en camisole, et Marianne lui offrait à plein bras des paquets de linge. « À votre servante, messieurs, faites comme chez vous. Moi, je vais m'asseoir, je suis rompu. » Le fermier proposa à toute la compagnie un verre de boisson. Ah, pas maintenant, dit-elle, j'ai trop chaud. Pécuchet accepta et disparut vers le cellier avec le père Louis, Marianne et Victor. Bouvard s'assit par terre à côté de Madame Bordin. Il recevait ponctuellement sa rente, n'avait pas à s'en plaindre, ne lui en voulait pas. La grande lumière éclairait son profil, l'un de ses bandeaux noirs descendait trop bas, et les frisons de sa nuque se collaient à sa peau ambrée, moite de sueur. Chaque fois qu'elle respirait, ses deux seins montaient. Le parfum du gazon se mêlait à la bonne odeur de sa chair solide, et Bouvard eut un revive de tempérament qui le combla de joie. Alors, il lui fit des compliments sur sa propriété. Elle en fut ravie et parla de ses projets. Pour agrandir les cours, elle abattrait le hautbord. N'est-ce pas qu'il est gentil? Dit Bouvard. Oh, c'est gentil, une petite fille. Et la veuve poussa un soupir qui semblait exprimer le long chagrin de toute une vie. Vous auriez pu en avoir. Elle baissa la tête. Il n'a tenu qu'à vous. Comment? Il eut un tel regard qu'elle s'empourpra comme à la sensation d'une caresse brutale, mais de suite en s'éventant avec son mouchoir. Vous avez manqué le coche, mon cher. Je ne comprends pas. Et sans se lever, il se rapprochait. Elle le considéra de haut en bas longtemps, puis souriante et les prunelles humides, c'est de votre faute. Les draps autour d'eux les enfermaient comme les rideaux d'un lit. Il se pencha sur le coude, lui frôlant les genoux de sa figure. Pourquoi, hein? Pourquoi? Et comme elle se taisait et qu'il était dans un état où les serments ne coûtaient rien, il tâcha de se justifier, s'accusa de folie, d'orgueil. Pardon, ce sera comme autrefois, voulez-vous? Il avait pris sa main qu'elle laissait dans la sienne. Un coup de vent brusque fit se relever les draps et ils virent deux paons, un mâle et une femelle. La femelle se tenait immobile, les jarrets pliés, la coupe en l'air. Le mâle, se promenant autour d'elle, arrondissait sa queue en éventail, se rengorgeait, gloussait, et puis sauta dessus, rabattant ses plumes qui le couvrirent comme un berceau, et les deux grands oiseaux tremblèrent d'un seul frémissement. Bouvard le sentit dans la paume de Madame Bordin. Elle se dégagea bien vite, et il y avait devant eux béant et comme pétrifié le jeune Victor qui regardait. Un peu plus loin, Victorine est allée sur le dos en plein soleil, aspirer toutes les fleurs qu'elle s'était cueillies. Le vieux cheval, effrayé par les paons, cassa sous une roide une de ses cordes, s'y empêtra les jambes, et galopant dans les trois cours, traînait la lessive après lui. Au cri furieux de Madame Bordin, Marianne accourut. Le père Gouy injuriait son cheval, bougre de rosse, carcan, voleur, lui donnait des coups de pied dans le ventre, des coups sur les oreilles, avec le manche d'un fouet. Bouvard fut indigné de voir battre un animal. Le paysan répondit, ah, j'en ai le droit, il m'appartient. Ce n'était pas une raison. Et Pécuchet, survenant, ajouta que les animaux avaient aussi leurs droits, car ils ont une âme comme nous, si toutefois la nôtre existe. Vous êtes un impie, s'écria Madame Bordin. Trois choses l'exaspéraient. La lessive, à recommencer, ses croyances qu'on outrageait, et la crainte d'avoir été entrevue tout à l'heure dans une pose suspecte. Je vous croyais plus forte, dit Bouvard. Elle répliqua magistralement, je n'aime pas les polissons. Et Gouy s'en prit à eux d'avoir abîmé son cheval, dont les naseaux saignaient. Il grommelait tout bas. Sacré gens de malheur! Les deux bons hommes se retirèrent en haussant leurs épaules. Victor leur demanda pourquoi ils s'étaient fâchés contre Gouy. Il abuse de sa force, ce qui est mal. Pourquoi est-ce mal? Les enfants n'auraient-ils aucune notion du juste? Hein, peut-être. Et le soir, Pécuchet ayant Bouvard à sa droite, sous la main quelques notes et en face de lui les deux élèves, commença un cours de morale. Ils firent lire à leurs élèves des historiettes tendant à inspirer l'amour de la vertu. Elles assommèrent Victor. Pour frapper son imagination, Pécuchet suspendit au mur de sa chambre des images exposant la vie du bon sujet et celle du mauvais sujet. Le premier, Adolphe, embrassait sa mère, étudiait l'allemand, secourait un aveugle et était reçu à l'école polytechnique. Le mauvais, Eugène, commençait par désobéir à son père, avait une querelle dans un café, battait son épouse, tombait ivre-mort, fracturait une armoire, et un dernier tableau le représentait au bagne, où un monsieur accompagné d'un jeune garçon disait, en le montrant, « Tu vois, mon fils, les dangers de l'inconduite, mais pour les enfants, l'avenir n'existait pas. » On avait beau prêcher et les saturer de cette maxime, le travail est honorable et les riches parfois sont malheureux. Ils avaient connu des travailleurs nullement honorés et se rappelaient le château où la vie semblait bonne. Les supplices du remords leur étaient dépeints avec tant d'exagération qu'ils flairaient la blague et se méfiaient du reste. On essaya de les conduire par le point d'honneur, l'idée de l'opinion publique, le sentiment de la gloire, en leur vantant les grands hommes, surtout les hommes utiles, tels que Belzonce, Franklin, Jacquard. Victor ne témoignait aucune envie de leur rassembler. Un jour qu'il avait fait une addition sans faute, Bouvard cousit à sa veste un ruban qui signifiait la croix. Il se pavana dessous. Mais ayant oublié la mort de Henri IV, Pécuchet le coiffa d'un bonnet d'âne. Victor se mit à braire avec tant de violence et pendant si longtemps qu'il fallut enlever ses oreilles de carton. Sa sœur, comme lui, se montrait flattée des éloges et indifférente au blâme. Afin de les rendre plus sensibles, on leur donna un chat noir qu'ils durent soigner et on leur confiait 2 ou 3 sols pour qu'ils fissent l'aumône. Ils trouvèrent la prétention odieuse. Cet argent leur appartenait. Se conformant à un désir des pédagogues, ils appelaient Bouvard mon oncle et Pécuchet bon ami, mais ils les tutoyaient, et la moitié des leçons ordinairement se passait en dispute. Victorine abusait de Marcel, montait sur son dos, le tirait par les cheveux, pour se moquer de son bec de lièvre, parlait du nez comme lui, et le pauvre homme n'osait se plaindre tant il aimait la petite fille. Un soir, sa voix rauque s'éleva extraordinairement. Bouvard et Pécuchet descendirent dans la cuisine. Les deux élèves observaient la cheminée, et Marcel, joignant les mains, s'écriait « Oh, retirez-le, retirez-le, c'est trop, c'est trop !» Le couvercle de la marmite sauta comme un obus éclate. Une masse grisâtre bondit jusqu'au plafond, puis tourna sur elle-même frénétiquement en poussant d'abominables cris. On reconnut le chat, tout efflanqué, sans poils, la queue pareille à un cordon. Des yeux énormes lui sortaient de la tête, ils étaient couleur de lait, comme vides, et pourtant regardaient. La bête hideuse hurlait toujours, se jeta dans l'âtre, disparut, puis retomba au milieu des cendres, inerte. C'était Victor qui avait commis cette atrocité. Et les deux bons hommes se reculèrent, pâles de stupéfaction et d'horreur. Au reproche qu'on lui adressa, il répondit comme le garde champêtre pour son fils et comme le fermier pour son cheval. « Eh bien, puisqu'il est à moi ?» Sans gêne, naïvement, dans la placidité d'un instinct assouvi. L'eau bouillante de la marmite était répandue par terre, des casseroles, les pincettes et des flambeaux jonchaient les dalles. Marcel fut quelque temps à nettoyer la cuisine, et ses maîtres enterrèrent le pauvre chat dans le jardin sous la pagode. Ensuite, Bouvard et Pécuchet causèrent longuement de Victor. Le sang paternel se manifestait. Que faire ? Le rendra Monsieur de Faverges ou le confier à d'autres ? Serait un aveu d'impuissance ? Il s'amenderait, peut-être, un peu, n'importe. L'espoir était douteux. La tendresse n'existait plus. Quel plaisir que d'avoir près de soi un adolescent curieux de vos idées, dont on observe les progrès et qui devient un frère plus tard. Mais Victor manquait d'esprit, de cœur encore plus, et Pécuchet soupira, le genou plié dans ses mains jointes. Ah, oh, la sœur ne vaut pas mieux, dit Bouvard. Il imaginait une fille de 15 ans à peu près, l'âme délicate, l'humeur enjouée, ornant la maison des élégances de sa jeunesse, et comme s'il eût été son père et qu'elle vint de mourir, le bonhomme en pleura. Puis, cherchant à excuser Victor, il allégua l'opinion de Rousseau. L'enfant n'a pas de responsabilité, ne peut être moral ou immoral. Cela, suivant Pécuchet, avait l'âge du discernement, et ils étudièrent les moyens de les corriger. « Pour qu'une punition soit bonne, dit Bentham, elle doit être proportionnée à la faute, sa conséquence naturelle. L'enfant a brisé un carreau, on n'en remettra pas qu'il souffre du froid. Si, n'ayant plus faim, il redemande d'un plat, cédez-lui. Une indigestion le fera vite se repentir. Il est paresseux. Qu'il reste sans travail, l'ennui de soi-même l'y ramènera. Mais Victor ne souffrirait pas du froid, son tempérament pouvait endurer des excès et la fainéantise lui conviendrait. Ils adoptèrent le système inverse, la punition médicinale. Des pinsommes lui furent donnés, il devint plus paresseux. On le privait de confiture, sa gourmandise en redoubla. L'ironie aurait peut-être du succès. Une fois qu'il était venu déjeuner les mains sales, Bouvard le railla, l'appelant joli cœur, muscadin, gant jaune. Victor écoutait le front bas, blêmit tout à coup, et jeta son assiette à la tête de Bouvard. Puis, furieux de l'avoir manqué, se précipita vers lui. Ce n'était pas trop que 3 hommes pour le contenir. Il se roulait par terre, tâchait de mordre. Pécuchet l'arrosa de loin avec une carafe. De suite, il fut calmé, mais enroué pendant 3 jours. Le moyen n'était pas bon. Ils en prirent un autre. Au moindre symptôme de colère, le traitant comme un malade, ils le couchaient dans son lit. Victor s'y trouvait bien et chantait. Un jour, il dénicha dans la bibliothèque une vieille noix de coco et commençait à la fendre quand Pécuchet survint. « Mon coco !» C'était un souvenir de Dumouchel. Il l'avait apporté de Paris à Chavignoles. Enleva les bras d'indignation. Victor se mit à rire. Bon ami n'y tint plus, et d'une large calotte l'envoya bouler au fond de l'appartement. Puis, tremblant d'émotion, alla se plaindre à Bouvard. Bouvard lui fit des reproches. « Es-tu bête avec ton coco ?» Les coups abrutissent, la terreur énerve, tu te dégrades toi-même. Pécuchet objecta que les châtiments corporels sont quelquefois indispensables. Pestalozzi s'y les employait, et le célèbre Mélenchon avoue que sans eux, il n'eût rien appris. Mais des punitions cruelles ont poussé des enfants au suicide, on en relate des exemples. Thor s'était barricadé dans sa chambre. Bouvard parlementa derrière la porte, et pour la faire ouvrir, lui promit une tarte aux prunes. Dès lors, il empira. Restait un moyen, préconisé par Dupanloup, le regard sévère. Il tâchait d'imprimer à leur visage un aspect effrayant, et ne produisait aucun effet. « Nous n'avons plus qu'à essayer de la religion, » dit Bouvard. Pécuchet se récria, il l'avait banni de leur programme. Mais le raisonnement ne satisfait pas tous les besoins. Le cœur et l'imagination veulent autre chose. Le surnaturel, pour bien des âmes, est indispensable. Et ils résolurent d'envoyer les enfants au catéchisme. Rennes proposa de les y conduire. Elle revenait dans la maison et savait se faire aimer par des manières caressantes. Victorine changea tout à coup, fut plus réservée, mielleuse, s'agenouillait devant la Madone, admirait le sacrifice d'Abraham, ricanait avec dédain au nom seul de protestant. Elle déclara qu'on lui avait prescrit le jeûne. Ils s'en informèrent, ce n'était pas vrai. Le jour de la fête Dieu, les Juliennes disparurent d'une plate-bande pour décorer le reposoir. Elle nia effrontément les avoir coupées. Une autre fois, elle prit à Bouvard 20 sols qu'elle mit dans le plat du sacristain. Ils en conclurent que la morale se distingue de la religion. Quand elle n'a point d'autre base, son importance est secondaire. Un soir, pendant qu'il dînait, M. Marescot entra. Victor s'en fit immédiatement. Le notaire, ayant refusé de s'asseoir, conta ce qui l'amenait. Le jeune Touache avait battu, presque tué son fils. Comme on savait les origines de Victor et qu'il était désagréable, les autres gamins l'appelaient forçat. Et tout à l'heure, il avait flanqué à M. Arnold Marescot une violente raclée. Le cher Arnold en emportait les traces sur la figure. Sa mère est au désespoir, son costume en lambeaux, sa santé compromise, mais où allons-nous? Le notaire exigeait un châtiment rigoureux et que Victor ne fréquentât plus le catéchisme afin de prévenir des collisions nouvelles. Bouvard et Pécuchet, bien que blessés par son ton rogue, promirent tout ce qu'il voulut. Galère. Victor avait-il obéi au sentiment de l'honneur ou de la vengeance? En tout cas, ce n'était pas un lâche. Mais sa brutalité les effrayait. La musique adoucissant les mœurs, Pécuchet imagina de lui apprendre le solfège. Victor eut beaucoup de peine à lire couramment les notes et à ne pas confondre les termes adagio, presto, sforzando. Son maître s'évertua à lui expliquer la gamme, l'accord parfait, le diatonique, le chromatique et les deux espèces d'intervalles appelées majeur et mineur. Il le fit se mettre tout droit, la poitrine en avant, la bouche grande ouverte, et pour l'instruire, par l'exemple, poussa des intonations d'une voix fausse. Celle de Victor lui sortait du larynx péniblement tant il le contractait. Quand un soupir commençait la mesure, il partait tout de suite, ou trop tard. Pécuchet néanmoins aborda le chant en partie double. Il prit une baguette pour tenir lieu d'archet et faisait aller son bras magistralement, comme s'il avait eu un orchestre derrière lui. Mais, occupé par deux besognes, il se trompait de temps. Son erreur en amenait d'autres chez l'élève et, les yeux sur la portée, fronçant les sourcils, tendant les muscles de leur cou, ils continuaient au hasard jusqu'au bas de la page. Enfin, Pécuchet dit à Victor, « Tu n'es pas prêt de briller aux Orphéons ?» Et il abandonna l'enseignement de la musique. Locke, d'ailleurs, a peut-être raison. Elle engage dans des compagnies tellement dissolues qu'il vaut mieux s'occuper à d'autres choses. Sans vouloir en faire un écrivain, il serait commode pour Victor de savoir au moins trousser une lettre. Une réflexion les arrêta. Le style épistolaire ne peut s'apprendre, car il appartient exclusivement aux femmes. Ils songèrent ensuite à fourrer dans sa mémoire quelques morceaux de littérature. Et, embarrassés du choix, consultèrent l'ouvrage de Madame Campan. Elle recommande la scène d'Eliassin, les chœurs d'Esther, Jean-Baptiste Rousseau, tout entier. C'est un peu vieux. Quant au roman, elle les prohibe, comme peignant le monde sous des couleurs trop favorables. Cependant, elle permet Clarice Harlow et le père de famille par Miss Hoppy. Qui est-ce Miss Hoppy? Ils ne découvrirent pas son nom dans la biographie Michaud. Restaient les contes de fées. Ils vont espérer des palais de diamants, dit Pécuchet. La littérature développe l'esprit, mais exalte les passions. Victorine fut renvoyée du catéchisme à cause des siennes. On l'avait surprise, embrassant le fils du notaire. Et Reine ne plaisantait pas. Sa figure était sérieuse sous son bonnet à gros tuyaux. Après un scandale pareil, comment garder une jeune fille si corrompue? Bouvard et Pécuchet qualifièrent le curé de vieille bête. Sa bonne le défendit. Ils ripostèrent et elle s'en alla en roulant des yeux terribles, en grommelant. « Oh, on vous connaît! On vous connaît !» Victorine, effectivement, s'était prise de tendresse pour Arnold, tant elle le trouvait joli avec son col brodé, sa veste de velours, ses cheveux sentant bon. Et elle lui apportait des bouquets jusqu'au moment où elle fut dénoncée par Zéphyrin. Quelle niaiserie que cette aventure! Les deux enfants étaient d'une innocence parfaite. Fallait-il leur apprendre le mystère de la génération? Je n'y verrais pas de mal, dit Bouvard. Le philosophe Mesdéou l'exposait à ses élèves, ne détaillant toutefois que la grossesse et la naissance. Pécuchet pensa différemment. Victor commençait à l'inquiéter. Il le soupçonnait d'avoir une mauvaise habitude. Pourquoi pas, des hommes graves la conservent toute leur vie, et on prétend que le duc d'Angoulême s'y livrait. Il interrogea son disciple d'une telle façon qu'il lui ouvrit les idées, et peu de temps après n'eut aucun doute. Alors, il l'appela criminel, et voulait comme traitement lui faire lire Tissot. Ce chef-d'œuvre, selon Bouvard, était plus pernicieux qu'utile. Mieux vaudrait lui inspirer un sentiment poétique. Aimé Martin rapporte qu'une mère, en pareil cas, prêta la nouvelle Héloïse à son fils, et pour se rendre digne de l'amour, le jeune homme se précipita dans le chemin de la vertu. Mais Victor n'était pas capable de rêver un ange. Si plus tôt, nous le menions chez les dames. Pécuchet exprima son horreur des filles publiques. Bouvard la jugeait idiote, et même parla de faire exprès un voyage au Havre. Y penses-tu? On nous verrait entrer. Eh bien, achète-lui un appareil. Le bandagiste croirait peut-être que c'est pour moi, dit Pécuchet. Il lui aurait fallu un plaisir émouvant, comme la chasse. Elle amènerait la dépense d'un fusil, d'un chien. Ils préférèrent le fatiguer par l'exercice et entreprirent des courses dans la campagne. Le gamin leur échappait. Bien qu'il se relayasse, il n'en pouvait plus et le soir n'avait pas la force de tenir le journal. Pendant qu'ils attendaient Victor, ils causaient avec les passants. Et par besoin de pédagogie, tâchait de leur apprendre l'hygiène, déplorait la perte des eaux, le gaspillage des fumiers. Ils en vinrent à inspecter les nourrices et s'indignaient contre le régime de leurs poupons. Les unes les abreuvent de gruau, ce qui les fait périr de faiblesse, d'autres les bourrent de viande avant 6 mois, et ils crèvent d'indigestion. Plusieurs les nettoient avec leur propre salive, toutes les manient brutalement. Quand ils apercevaient sur une porte un hibou crucifié, ils entraient dans la ferme et disaient « Vous avez tort! Ces animaux vivent de rats, de campagnols. On a trouvé dans l'estomac d'une chouette jusqu'à 50 larves de chenilles. » Les villageois les connaissaient pour les avoir vus, premièrement comme médecins, puis en quête de vieux meubles, puis à la recherche des cailloux, et il répondait « Allez donc, farceur, n'essayez pas de nous en remontrer !» Leur conviction s'ébranla, car les moineaux purgent les potagers, mais gobent les cerises. Les hiboux dévorent les insectes et en même temps les chauves-souris qui sont utiles. Et si les taupes mangent les limaces, elles bouleversent le sol. Une chose dont ils étaient certains, c'est qu'il faut détruire tout le gibier, funeste à l'agriculture. Ils devinrent plus contents de Victorine. Quand elle repassait le linge, elle poussait son fer sur la planche en chantonnant d'une voix douce, s'intéressait au ménage, fit une calotte pour Bouvard, et ses points de piquet lui valurent les compliments de Romiche. C'était un de ces tailleurs qui vont dans les fermes raccommoder les habits. On l'eut 15 jours à la maison. Bossu, avec des yeux rouges, il rachetait ses défauts corporels par une humeur bouffonne. Pendant que les maîtres étaient dehors, il amusait Marcel et Victorine en leur contant des farces, tirait sa langue jusqu'au menton, imitait le coucou, faisait le ventriloque, et le soir, s'épargnant les frais d'auberge, allait coucher dans le fournil. Or, un matin, de très bonne heure, Bouvard, sentant une envie de travail, vint y prendre des copeaux pour allumer son feu. Un spectacle le pétrifia. Derrière les débris du bahut, sur une paillasse, Romiche et Victorine dormaient ensemble. Il lui avait passé le bras sous la taille, et son autre main, longue comme celle d'un singe, la tenait par un genou, les paupières entrecloses, le visage encore convulsé dans un spasme de plaisir. Elle souriait, étendue sur le dos. Le bâillement de sa camisole laissait à découvert sa gorge enfantine, marbrée de plaques rouges par les caresses du bossu. Ses cheveux blonds traînaient, et la clarté de l'aube jetait sur tous les deux une lumière blafarde. Bouvard, au premier moment, avait ressenti comme un heurt en pleine poitrine. Puis une pudeur l'empêcha de faire un pas, un geste. Des réflexions douloureuses l'assaillaient. Si jeune, perdu. Ensuite, il alla réveiller Pécuchet et d'un mot lui apprit tout. Ah, le misérable ! Oh, nous n'y pouvons rien, calme-toi. Et ils furent longtemps à soupirer l'un devant l'autre. Bouvard, sans redingote, les bras croisés, Pécuchet, au bord de sa couche, pieds nus et en bonnet de coton. Romiche devait partir ce jour-là, ayant terminé son ouvrage. Ils le payèrent d'une façon hautaine, silencieusement. Mais la Providence leur en voulait. Marcel les conduisit à pas de loup dans la chambre de Victor et leur montra au fond de sa commode une pièce de 20 francs. Le gamin l'avait prié de lui en fournir la monnaie. Mais d'où provenait-elle ? D'un vol, bien sûr, et commis durant leur tournée d'ingénieurs. Si on la réclamait, ils auraient l'air complices. Ils récapitulèrent tout le mal qu'ils s'étaient donné, tant de leçons, de précautions, de tourments. Et songez, disait-il, que nous voulions autrefois faire d'elle une sous-maîtresse et de lui dernièrement un piqueur de travaux. Si elle est vicieuse, ce n'est pas la faute de ses lectures. Moi, pour le rendre honnête, je lui avais appris la biographie de Cartouche. Peut-être ont-ils manqué d'une famille, des soins d'une mère. Mais j'en étais une, objecta Bouvard. Hélas, reprit Pécuchet, mais il y a des natures dénuées de sens moral, et l'éducation n'y peut rien. Ah, ah oui, c'est beau, l'éducation. Comme les orphelins ne savaient aucun métier, on leur cherchait deux places de domestiques. Et puis, à la grâce de Dieu, il ne s'en mêlerait plus. Et désormais, mon oncle et bon ami les firent manger à la cuisine.